Bonjour.
Alors, on se penche aujourd'hui sur les ovaires polykystiques. Avant de vous donner la parole, Asma, j'invite les auditeurs à poser bien sûr leurs questions et à réagir sur l'application Lux Radio.
Alors, Hicham Ben Abbès, Tarji, mardi dernier, on parlait infertilité. À cette occasion, vous aviez en fait expliqué qu'une des causes du trouble de la fertilité chez la femme est le syndrome justement des ovaires polykystiques. On parle d'ovaires qui se masculinisent. Expliquez-nous.
Alors, comme vous dites, c'est une cause, mais c'est pas la seule cause. Et heureusement, ce n'est pas toujours les OPK, les ovaires polykystiques, ou PKIOS lombabed, ou bien les OPK, comment je les décrirais dans cette émission, ne sont pas toujours cause d'infertilité. Ça peut, c'est l'un des signes des OPK. C'est quoi les OPK? C'est une mauvaise ovulation. C'est-à-dire que normalement, le cycle menstruel, donc régulier, donne une ovulation tous les 14 jours. La première phase, l'ovule grandit et puis il sort. Là, cette première phase est déréglée pour plusieurs raisons qu'on ne connaît pas bien, mais il y a une mauvaise ovulation qui fait qu'il y a un retard d'ovulation qui peut prendre quelques jours, voire des fois qui peut prendre quelques semaines. Et puisqu'il y a un retard d'ovulation, et ben, il y a moins de chances de tomber enceinte, mais il y a toujours, ça dépend des cas, il y a des femmes qui vont ovuler au bout, je vous dis, de 3 semaines ou 4 semaines au lieu de 15 jours, mais elles vont finir par ovuler. Et donc, je dirais, une femme OPK a un peu moins de chances de tomber enceinte. Comme je l'avais dit la dernière fois sur l'infertilité, une femme a environ une chance par mois de tomber enceinte. Elle a donc 12 chances par an, 12 ovulations par an. Une femme qui est OPK, eh ben, elle a un peu moins. Ça dépend, est-ce qu'elle a ses règles tous les 40 jours, je dirais. Donc, elle a 10 cycles par mois, eh ben, elle a que 10 chances par mois, par an de tomber enceinte. Si elle a qu'une ovulation tous les 6 mois, elle a que 2 chances par an, mais elle a toujours des chances de tomber enceinte.
D'accord. Alors, on dit, Hicham Ben Abbès Tarji, que l'hyperandrogénie est un des grands symptômes de ce dysfonctionnement ovarien. Est-ce qu'il existe d'autres symptômes? Et puis, comment cela fait-il que cette maladie reste assez méconnue alors que 10% des femmes sont touchées?
Alors, comme vous dites, on ne comprend pas bien le primum ovin, c'est-à-dire la cause des OPK. Mais qu'est-ce qu'on constate? Comme vous dites, il y a une hyperandrogénie, c'est-à-dire il y a un excès d'hormones masculines. Il y a beaucoup d'androgènes et ces androgènes vont faire une partie de la symptomatologie, notamment l'acné, notamment l'hirsutisme, c'est-à-dire la pilosité. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un hyperinsulinisme, c'est-à-dire que l'insuline, elle est présente, mais elle ne marche pas bien. Et donc, si vous voulez, il y a plein de dérèglements hormonaux, je vous dis l'hyperandrogénie, l'hyperinsulinisme, qu'on ne peut pas toujours doser, mais qui vont entraîner cette dysovulation, cette mauvaise ovulation. Et de là va partir donc tous les OPK, tout le problème des OPK. Maintenant, il y a différents types d'OPK. C'est très hétérogène comme syndrome. Il faut dire aussi quelque chose, que l'obésité favorise les OPK.
C'était ma question justement, de savoir si voilà. Ce syndrome est plus fréquent chez les femmes en surpoids.
Alors, non, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes obèse que vous êtes OPK, mais quand vous êtes OPK, le fait d'être plus grosse, d'être en surpoids ou obèse, va justement vous dérégler. Par exemple, pour diagnostiquer des OPK, je vais demander, comment je vais diagnostiquer des OPK? Une femme va me dire, ce mois, eh ben, j'ai des cycles qui sont devenus irréguliers, ou ces derniers mois, les cycles sont devenus irréguliers. J'avais un cycle régulier qui venait tous les 28 jours ou 30 jours, maintenant il commence à tarder d'une semaine. Et une question qui va me venir à l'esprit, est-ce que vous avez grossi? Parce que le fait justement de grossir va dérégler le cycle de l'insuline, va entraîner, va aggraver cette insulinorésistance et donc va aggraver les OPK. Donc il faut différencier. Il y a des OPK qui sont maigres, il y a des OPK qui sont obèses ou en surpoids, et il y a des obèses ou des gens en surpoids qui ne sont pas OPK. Je veux dire, ce n'est pas forcément lié. Mais il y a cette relation, quand on est OPK, le seul traitement, je dirais, étiologique de la cause qui peut améliorer, c'est justement de maigrir. Parce que maigrir va diminuer cette insulinorésistance. Alors, attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des OPK maigres, on ne peut pas leur...
pense qu'on a perdu Hicham Ben Abbas Tarji. On discutait ensemble donc des ovaires. Oui. Alors je vous entends.
Oui.
Oui.
Je vous disais, il y a des OPK maigres.
Allô, je pense que
maigrir encore plus. Et c'est là une résistance qui est là, qui va agir. On va agir avec d'autres médicaments.
Alors, autre question, Hicham Ben Abbas Tarji, est-ce qu'il existe une prédisposition familiale pour cette maladie?
Tout à fait, oui. Et justement, on va le retrouver que souvent, alors, les règles vont survenir comme la maman ou comme les sœurs. On retrouve souvent ça. Une dame qui dit, moi j'ai des troubles du cycle, mes règles ne sont pas régulières. Elles viennent tous les mois et demi, tous les deux mois. Elle va dire, mais je retrouve la même chose chez ma sœur ou chez ma mère. Il y a une prédisposition génétique. Je vous dis, on ne connaît pas bien les OPK. On ne connaît pas la cause. Pourquoi est-ce que ces ovaires ovulent mal?
Alors, Hicham Ben Abbas Tarji, je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien à Casablanca. On discute ensemble du syndrome des ovaires polykystiques. On en vient au diagnostic. Sur quoi repose-t-il? Comment se fait-il? Et puis surtout, à quel moment?
Alors, le diagnostic des OPK repose d'abord sur l'interrogatoire et l'examen clinique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, classiquement, je veux dire, les OPK vont être donc une femme jeune qui va avoir des troubles du cycle, ce qu'on appelle l'aménorrhée. Elle va avoir des règles qui sont irrégulières, qui viennent tous les 2-3 mois, ou un peu plus tôt ou un peu plus tard. Quand elle va venir, je vais déjà la voir au niveau de l'apparence physique. On va voir qu'elle est en surpoids ou obèse. On va voir qu'elle a de la pilosité, qu'elle a de l'acné. Tous ces signes, ce sont les signes de l'hyperandrogénie, de l'excès d'hormones masculines. Et donc, on va suspecter les OPK. Mais donc, on peut demander ou pas un bilan hormonale à la recherche d'une hyperandrogénie, d'un excès de ces hormones. Et on va surtout faire une échographie, de préférence par voie endovaginale, où on va mieux voir les ovaires. Mais sinon, comme ça arrive souvent chez des jeunes filles vierges, on fait juste une échographie suspubienne, ou si on peut, une échographie par derrière pour bien voir les ovaires. Et donc, on va voir des ovaires qui sont pluricystiques. Il y a plein de petits follicules. Ce ne sont pas des véritables kystes, mais c'est des petits follicules qui font 10 mm. Parce que ces follicules, c'est eux qui vont grandir normalement pour aller donner un ovule. Et comme je l'ai dit dès le début, la problématique des OPK, c'est que ces follicules ne grandissent pas, donc ne peuvent pas produire un ovule qui va sortir au bout de 15 jours. Les experts ont retenu des diagnostics pour parler d'OPK. Il nous faut 2 critères sur 3. Une aménorrhée ou des troubles du cycle, c'est-à-dire donc une irrégularité qui ne vient pas tous les mois. Deuxièmement, une hyperandrogénie clinique et ou biologique. J'ai dit la pilosité, l'acné. Et si on ne les trouve pas, on peut faire par un dosage biologique pour les retrouver. Et troisièmement, l'aspect échographique en faveur d'OPK. Et donc, il faut 2 critères sur 3 pour parler d'OPK.
D'accord. Alors, Hicham Ben Abbas Tarji, il est, je pense, important de signaler que le syndrome des ovaires polykystiques réduit les ovulations, mais ce n'est pas une cause de stérilité. On le disait au tout début de l'interview, la fertilité de ces femmes, paraît-il, a d'ailleurs tendance à s'améliorer après 30 ans, et l'excès d'androgène retarde un peu la ménopause. Est-ce vrai?
Tout à fait, mais ce que je vais vous dire au niveau des OPK, c'est que c'est très hétérogène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un tableau classique des OPK. Je l'ai dit par rapport à la fertilité des OPK est moindre. Oui, on ne peut pas dire que la fertilité d'une femme OPK est la même qu'une femme normale, mais quand même, elle ovule. Et donc, elle peut aussi tomber enceinte spontanément. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de femmes OPK, qui sont connus OPK et qui sont tombés enceintes tout à fait naturellement, sans médicaments, sans rien, tout simplement parce qu'elle avait des rapports réguliers. Et donc, elle a ovulé un jour et elle est tombée enceinte spontanément. Donc, c'est très possible. Après, les traitements, je dirais, on va s'adapter aux signes cliniques. De quoi se plaint la dame? Est-ce qu'elle a un problème d'hyperpilosité et on va lui donner un traitement anti-androgénique contre ses hormones androgènes. Est-ce qu'elle a de l'acné? On peut lui donner une pilule donc pour lutter contre cette acné. Ou bien tout simplement, elle veut avoir une régularité de cycle et encore une fois, on peut lui donner une pilule contraceptive pour réguler son cycle. Il n'y a pas de problématique. Enfin, il y a différentes problématiques qui sont différentes chez les dames, et donc il faut l'écouter et lui donner un traitement en fonction de ce dont elle se plaint.
Donc on retiendra que le traitement, c'est du cas par cas. Donc il faut régulièrement faire un check-up justement pour vérifier tout cela, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Merci beaucoup, Hicham Benabastagi. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, sachez aussi que vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité en podcast sur l'application Lux Radio.